Bienvenue pour cette analyse approfondie des enjeux autour de TikTok et puis plus largement de notre hyperconnexion numérique. On va s'appuyer aujourd'hui sur un article qui s'appelle « TikTok et addiction numérique, un enjeu de santé publique et professionnelle ».
Bonjour.
L'idée, c'est de comprendre un peu l'ampleur du phénomène TikTok chez les jeunes, ça oui, mais aussi et surtout de regarder de près les conclusions assez marquantes d'une commission d'enquête parlementaire toute récente de septembre 2025. Et on verra que ça dépasse largement les ados, que ça nous touche tous, même au travail. Et puis, quelles sont les pistes de solutions, bien sûr ?
Oui, c'est un sujet vraiment crucial, hein, parce que TikTok, bon, c'est pas juste une appli de plus, quoi. C'est un peu une loupe sur tous les défis que le numérique pose à notre attention, à notre santé mentale et même, on le verra, à notre sécurité.
Alors, commençons par ça, par TikTok et les jeunes. L'article le décrit comme incontournable. Il cite une consultation citoyenne assez large, 30 000 personnes, et un chiffre frappant. Plus de la moitié des mineurs y passeraient plus de 2 heures par jour. C'est énorme.
C'est énorme, oui. Et les conséquences directes, on les imagine un peu. Mais l'article insiste sur la perte de sommeil, la baisse de concentration, ce sentiment de dépendance, l'impression de plus pouvoir décrocher.
Et qu'est-ce qui crée ça, au fond ? C'est l'appli elle-même ?
En grande partie, oui. Ce sont les mécanismes d'engagement intégrés. L'algorithme de TikTok, c'est une mécanique de haute précision. Vraiment pensée pour nous retenir le plus longtemps possible. Chaque seconde passée sur une vidéo, chaque like, chaque partage, tout est analysé pour affiner ce qu'on va nous montrer ensuite. Pour maximiser le temps d'écran, en fait.
D'accord.
Et ça, ça vient titiller directement les circuits de la récompense dans notre cerveau. Un peu comme, enfin, la comparaison est souvent faite avec certaines substances. Ça crée ce craving, cette envie presque irrépressible de revenir, de scroller encore. Ajouter à ça le fameux FOMO, la peur de rater quelque chose si on n'est pas connecté H24.
Oui, la peur de manquer l'info, le challenge du moment.
Exactement. Et vous avez un cocktail assez puissant. Sans oublier cet effet de bulle algorithmique. À force, on nous montre que des choses similaires. Ça peut nous enfermer dans certaines idées ou certains états émotionnels.
Et cette bulle, elle n'est pas toujours très saine apparemment. L'article donne des chiffres sur l'exposition à des contenus, disons, problématiques. Ça fait un peu froid dans le dos. 26% des jeunes auraient vu des contenus choquants, 17% de la nudité, 13%, et c'est terrible, des contenus liés aux troubles alimentaires.
Ouais.
Et même 8% évoquant le suicide ou l'automutilation. C'est massif, ce ne sont pas juste quelques cas isolés.
Non, c'est considérable. Et le vrai risque, au-delà du choc immédiat, c'est la normalisation. À force de voir ça, même sans le vouloir, ça finit par banaliser des choses qui ne devraient pas l'être. Et l'impact psy, lui, il est bien réel et documenté. Plus de stress, d'anxiété, un sentiment d'isolement paradoxal. On est hyper connecté, mais seul. Et parfois même des symptômes dépressifs chez les plus gros utilisateurs.
Donc TikTok, c'est un peu le symbole de ces risques de l'hyperconnexion chez les jeunes.
C'est ça. Ça cristallise beaucoup de choses.
Alors, il y a eu une réaction politique assez forte. Une commission d'enquête parlementaire a été lancée en mars 2025. 6 mois de travail, d'audition, et en septembre 2025, elle a rendu un rapport. Adopté à l'unanimité, ce qui n'est pas si fréquent, et le mot d'ordre, semble-t-il, c'est la précaution.
Oui, le principe de précaution comme guide.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, concrètement ? Il y a des mesures assez radicales qui visent les mineurs. On parle carrément d'interdire l'accès aux réseaux sociaux, sauf les messageries avant 15 ans.
Ah oui, quand même.
D'instaurer un couvre-feu numérique entre 22h et 8h pour les 15-18 ans. Et d'étendre l'interdiction du portable qui existe au collège à tous les lycées.
Ce sont des mesures qui feraient sans doute beaucoup parler si elles étaient appliquées. Très fortes.
C'est clair.
Mais le rapport ne se limite pas à ça. Aux interdictions, il y a tout un volet sur la technologie elle-même. Il demande aux plateformes de diversifier les contenus pour éviter justement ces bulles algorithmiques dont on parlait. De mettre des limites techniques au défilement infini, le fameux scroll qui nous zappe. Et surtout, plus de transparence sur le fonctionnement des algorithmes. L'idée, c'est de redonner un peu le choix à l'utilisateur, qu'il ne soit pas juste piloté par l'algo le plus accrocheur.
D'accord, donc agir sur la conception même de ces plateformes.
Exactement. Et la commission insiste aussi sur un point. Renforcer les sanctions contre les plateformes qui ne respectent pas leurs obligations. Et surtout, les appliquer vraiment. Parce que c'est souvent là que ça pêche.
Oui, les règles existaient parfois, mais leur application...
Voilà.
Et l'éducation dans tout ça, Le rapport en parle ?
Oui, bien sûr. Il plaide pour une vraie éducation au numérique, et ce, dès le primaire. Pour apprendre à décrypter, à avoir un regard critique sur ces outils, et il demande aussi des campagnes de sensibilisation massive. Pas que pour les jeunes, pour tout le monde probablement.
Logique.
Et puis, il y a deux autres points vraiment structurants dans ce rapport, je trouve. D'abord, il dit noir sur blanc qu'il faut investir beaucoup plus dans la santé mentale des jeunes, pour prendre en charge les conséquences de cette hyperconnexion. Ce n'est pas qu'un problème technique, c'est aussi un problème de santé publique.
C'est une reconnaissance importante.
Et ensuite, il y a cette proposition qui pourrait tout changer. Faire évoluer le statut juridique des plateformes. Les faire passer de simples hébergeurs de contenu, avec une responsabilité assez limitée sur ce qui est posté, à un statut d'éditeur.
Ah oui, passer d'hébergeur à éditeur, ça change tout, non? Ça veut dire qu'il serait responsable de ce qu'il publie comme un journal ou une chaîne de télé?
Exactement. C'est une petite bombe juridique potentiellement. Ça impliquerait une responsabilité éditoriale bien plus forte sur les contenus diffusés et leurs impacts. Au fond, ce rapport, il acte une prise de conscience politique. Les mineurs sont particulièrement vulnérables dans ces environnements numériques et ils ont besoin d'une protection spécifique renforcée.
D'accord, donc on a le phénomène TikTok, la réaction politique, mais l'article nous dit « Attention, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. TikTok serait un symptôme d'un problème bien plus large, l'hyperconnexion qui nous touche tous, à tous les âges, dans tous les secteurs. »
Oui, et c'est une perspective essentielle à avoir. Ce n'est pas que les ados, c'est toute la société qui est concernée. L'article donne des exemples très concrets. Prenez la santé JT. Les médecins, les psys voient de plus en plus de troubles liés aux écrans. Anxiété et fatigue cognitive, problèmes d'attention chez les patients. Mais les soignants eux-mêmes sont touchés par le burn-out numérique. Le flux continu d'infos, la connexion permanente. C'est épuisant.
Je vois.
Dans le secteur de l'assurance aussi, ça change la donne. De nouveaux risques apparaissent ou s'aggravent. Les risques psychosociaux liés au travail, quand la frontière pro-perso s'efface avec la connexion constante. Le surendettement lié aux jeux en ligne, aux cryptos, qui utilisent des ressorts addictifs. Ou plus simplement, la distraction au volant à cause du smartphone.
Oui, avec des conséquences très directes en termes d'accidents.
Exactement. Et ça, ça a un coût pour les assureurs et pour la société. On peut faire le parallèle avec la banque. Certains comportements financiers un peu compulsifs, comme le trading à outrance, les paris en ligne, même les achats impulsifs, ça repose sur les mêmes mécanismes psychologiques. Récompense immédiate, perte de contrôle, que ceux qu'on trouve sur TikTok.
C'est intéressant ce parallèle.
Et n'oublions pas des secteurs comme le BTP, les transports. Le smartphone sur un chantier ou au volant d'un camion, c'est un facteur de risque d'accident majeur. Les conséquences humaines peuvent être dramatiques. Et pour les entreprises aussi, c'est un enjeu de sécurité et de responsabilité.
Donc, analyser TikTok, ça nous en dit long sur quelque chose de plus global.
C'est ça. Ces technologies sont souvent conçues pour capter notre attention de façon quasi industrielle. Et à la longue, ça fragilise notre capacité à nous concentrer, notre bien-être mental et même notre sécurité physique. Ce n'est plus juste une question de génération. C'est un vrai sujet de société. L'addiction numérique, ou en tout cas la dépendance, ça touche tout le monde. Les salariés, les familles, les entreprises, les institutions, c'est collectif.
Bon, alors si le constat est si large, si profond, qu'est-ce qu'on fait? On ne va sans doute pas tout jeter, la technologie a aussi ses bons côtés. Comment on peut viser un usage plus sain, plus maîtrisé, sans tomber dans la caricature anti-tech? L'article donne des pistes.
Oui, il suggère qu'il n'y a pas une solution miracle, mais plutôt un ensemble d'actions à mener en même temps, à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des familles, c'est crucial. Ça passe par retarder l'âge du premier smartphone, du premier accès au réseau, mettre des règles claires sur le temps d'écran, les moments sans écran, reprendre la main sur les notifications qui nous harcèlent en permanence, et surtout parler, dialoguer sur ce qu'on fait en ligne, ce qu'on ressent.
Le dialogue, toujours essentiel.
Ensuite, l'école, bien sûr. Son rôle est fondamental, pas juste pour mettre en garde contre les dangers, mais pour faire de la vraie éducation aux médias, à l'info, et ce, dès le plus jeune âge. Comprendre comment marche un algorithme, repérer les fausses infos, les techniques pour capter notre attention, c'est une compétence de base aujourd'hui, développer l'esprit critique.
Et pour le monde du travail qui est si touché, comme vous le disiez?
Ah oui, le monde pro est un acteur absolument clé. Les entreprises ont un rôle à jouer. Déjà, mettre en place de politiques claires sur l'hyperconnexion, faire respecter le droit à la déconnexion, qui existe mais n'est pas toujours appliqué.
C'est vrai.
Former les managers aussi pour qu'ils sachent repérer les signes de surcharge numérique chez leurs collaborateurs et qu'ils puissent en parler, accompagner. Et puis, sensibiliser tout le monde aux risques psychosociaux, mais aussi aux risques très concrets de la distraction au travail.
D'accord.
Famille, école, entreprise et les pouvoirs publics ?
Indispensable. D'un côté, investir dans la prévention et la prise en charge en santé mentale, comme le demande le rapport parlementaire. C'est un besoin criant. Et de l'autre, maintenir la pression sur les grandes plateformes pour qu'elles respectent leurs obligations de protéger les utilisateurs, notamment les plus jeunes, et ne pas hésiter à sanctionner quand il le faut.
Ce qui se dégage, c'est vraiment l'idée d'une action coordonnée. Personne ne peut régler ça tout seul.
Exactement.
C'est une mobilisation générale qu'il faut. Famille, école, entreprise, État. L'accent est mis sur la prévention, sur le développement d'une sorte de, comment dire, de culture du bien-être numérique, pour que la technologie reste un outil à notre service et pas l'inverse. Bon, si on devait résumer un peu tout ça. On a vu TikTok, très populaire, mais aussi porteur de risques importants, surtout pour les jeunes. Face à ça, une réponse politique qui se veut forte, avec des mesures assez radicales, qui reconnaît cette vulnérabilité des mineurs.
Oui.
Mais on a vu aussi que le problème de fond, l'hyperconnexion, les mécanismes qui captent notre attention, eh bien ça nous concerne absolument tous, dans toutes nos activités. Et la solution passerait par une approche collective, préventive, qui implique tout le monde.
C'est tout à fait ça. Retrouver un équilibre, ce n'est pas juste une question de volonté individuelle face à des algorithmes surpuissants. Ce n'est pas non plus que l'affaire des lois. C'est vraiment un effort collectif et continu. Les familles au quotidien, l'école pour l'esprit critique, les entreprises pour des environnements plus sains et l'État pour le cadre et le soutien. L'enjeu, au fond, c'est de reprendre collectivement le contrôle de notre attention, qui est une ressource limitée et précieuse. Et à travers ça, de notre bien-être.
Et peut-être, pour finir, une question qui reste ouverte. Au-delà des règles nécessaires, de l'éducation au risque, qui est indispensable, comment est-ce qu'on peut cultiver, chacun et collectivement, une relation au numérique qui soit moins subie, moins addictive, certes, mais surtout plus intentionnelle, plus consciente, une relation qui soit vraiment, au final, au service de notre épanouissement personnel et de la qualité de nos liens avec les autres. Voilà une piste de réflexion.
Une excellente question pour conclure.